France Inter, le 18-20.
Donnez-moi quelque chose de naturel. Vous n'avez pas quelque chose de moins chimique quand vous arrivez chez le pharmacien désormais avec votre rhume en bandoulière ou vos insomnies accrochées à la ceinture? Le premier réflexe n'est pas ou n'est plus un coup de cortisone dans le nez, de l'ibuprofène à haute dose ou un somnifère. C'est plutôt du thym en tisane, du ginseng en gélule ou de la valériane une heure avant d'aller dormir. Si j'avais pris du cyprès, de l'échinacée ou du sureau, il paraît que je parlerais sans doute moins du nez. Mais mon frère et moi, en voulant encore beaucoup à notre mère, nous avoir forcé à avaler de la gelée royale au petit-déj, parce que franchement, même s'il paraît que c'est bon pour la forme, c'est quand même horriblement mauvais. Bref, en gélule, en décoction, en potion, en tisane, en infusion, en pommade, on adore les compléments alimentaires aux plantes. Nous, en France, nous sommes même les champions d'Europe de la consommation, sauf qu'on en fait trop, au point que l'Académie de médecine s'inquiète des abus ou du n'importe quoi. Une plante laxative, ça existe, mais c'est dangereux. Est-ce que vous savez que le millepertuis n'est pas bon si vous prenez la pilule? Est-ce que vous savez que la menthe peut aussi provoquer des convulsions? Est-ce que vous savez que le pamplemousse n'est pas toujours bon non plus, alors qu'il a l'air quand même sacrément inoffensif? L'époque veut du naturel, l'époque veut du bio, l'époque veut du non-chimique. L'époque nous parle aussi de défiance contre les médicaments, les vaccins, les labos et tout le monde à la fois. Mais toutes les potions ne valent pas le coup qu'on tombe dedans. On en parle ensemble ce soir.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Et Dust, c'est vous qui commencez. Bien, bonsoir et soyez le bienvenu.
Bonsoir, merci de prendre mon appel.
Allez-y.
Ben écoutez, moi je pratique l'automédication depuis une quinzaine d'années. Je suis conscient, comme vous l'avez signalé, qu'il y a des risques. Et ce que je trouve extrêmement regrettable, c'est que nos médecins généralistes soient uniquement allopathes et donc dédiés à l'industrie pharmaceutique et ne tiennent à aucune façon, ne sont pas phytothérapeutes ou aromathérapeute ou d'autres médecines comme la médecine indienne ou chinoise qui ont 2 ou 3 000 ans. Je trouve ça accablant en fait. Et du coup, surtout que pour l'essentiel, les matières actives des médicaments sortent bien souvent de plantes, quoi. Donc on se retrouve effectivement dans une zone de non-culture. Et effectivement, quand on fait de l'automédication, il faut être bien conscient que il faut s'informer, il faut se renseigner, il faut éventuellement partager l'expérience de gens qui font ça depuis longtemps. Il faut se tester un peu sur soi, faire gaffe avec les doses et tout. Et je trouve ça regrettable finalement qu'un docteur soit uniquement un commercial de Big Pharma finalement.
Alors, voilà. Tous les médecins ne sont pas forcément des commerciaux, mais du coup, Dust, j'ai quand même une question. Parce que si vous avez un rhume et que vous le soyez aux plantes, je comprends. Si vous avez, on en parlera, peut-être des douleurs, ou y compris musculaires, enfin on y viendra aussi. Mais enfin, si demain vous avez quelque chose de grave, vous faites quoi?
De grave, comment?
Bah, de grave, c'est-à-dire une vraie douleur à l'estomac. Non, on va même pas aller jusque-là, mais une vraie douleur, quelque chose de diagnostiqué, vous faites quoi? Vous restez aux plantes ou vous refusez le médicament ou pas?
Ben, je vais... je suis pas intégriste, c'est-à-dire que je vais me renseigner et bien souvent quand je suis malade, je vais quand même, je passe chez mon médecin pour me faire un diagnostic, ça m'empêche pas. Hein. Je suis pas... je m'aime bien quoi, donc je fais gaffe. Et du coup, une fois que j'ai son diagnostic, eh bien, je me renseigne, je vois ce qu'il me propose, je vois sur internet en amont, j'essaie de voir s'il y a de la contestation, s'il y a des soucis, s'il y a des gens qui ont ramassé parce qu'ils ont pris des traitements et qu'ils ont eu des effets secondaires, j'essaie de voir tout ça. Et si jamais je m'aperçois que par les plantes, eh bien c'est pas vraiment faisable, bon mais peut-être que je viendrai à l'allopathie, oui ça c'est envisageable on va dire.
Merci.
Mais dans l'essentiel de ma philosophie quand même, l'industrie pharmaceutique quand même, c'est quand même une industrie qui dégage beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça corrompt les humains, qu'on le veuille ou non, quoi.
Merci beaucoup, Dust, pour cette entrée en matière. Il y a une phrase importante que vous avez utilisée, c'est ma philosophie. On y viendra parce qu'il y a effectivement une manière de se soigner, puis l'envie aussi, la manière dont on a envie de se soigner, c'est visiblement important. Pour répondre à votre question, pour entamer le débat, en tout cas, avec nous ce soir, Sabrina Boutefnouché, là, bonsoir. Vous êtes docteur en pharmacie, vous êtes maître de conférence en pharmacognosie, donc l'étude des médicaments d'origine animale et végétale, c'est ça exactement, oui. À l'université René Descartes. Et bonsoir à Mathieu Calafiore.
Bonsoir.
Vous êtes médecin généraliste, vous êtes maître de conférences des universités de Lille et vous êtes en duplex chez nos amis de Bleu Nord à Lille. On les salue et on les remercie. Je vais commencer avec vous, Sabrina Boutef-Nouchet. Vous avez beaucoup mangé parce que l'industrie pharmaceutique, tout le monde en parle dans les questions ici et là, et à chaque fois ça revient. Comment... C'est un cas typique finalement, un cas assez classique finalement que celui de Dust qui vient de nous appeler, non ?
Oui, tout à fait. En fait, il a tout à fait raison quand il regrette que son médecin ne soit pas au courant, ne soit pas formé aux médicaments traditionnels à base de plantes. Parce qu'il faut savoir quand même qu'en Europe, en France, on a reconnu les médicaments traditionnels à base de plantes, que la phytothérapie fait partie de l'arsenal thérapeutique, qu'on a au sein de l'Agence européenne du médicament un statut européen du médicament traditionnel à base de plantes. La phytothérapie est une médecine traditionnelle.
Donc il n'y a pas un refus systématique de tout ce qui serait autre que la chimie.
Alors le statut existe, la formation des médecins n'existe pas. Donc ça c'est un gros problème. Et ce qui fait qu'effectivement, là on est dans le domaine de l'automédication. Ces médicaments traditionnels se prêtent beaucoup à l'automédication. Mm-hmm. Sont d'ailleurs leur cadre prévoit qu'ils soient pris dans le cadre d'une automédication. Mais effectivement, on n'a pas dans les facultés de médecine un enseignement spécifique des médecins concernant ces médicaments traditionnels à base de plantes, alors qu'ils font partie de l'arsenal thérapeutique disponible.
Donc il faut le regretter réellement. Oui. Vous essayez, vous poussez pour que ça existe ou pas ?
Oui, tout à fait. On pousse. Nous, on a à l'université, à la faculté de pharmacie, proposé donc un DU destiné aux professionnels de santé, pharmaciens, médecins. On a également d'autres professionnels de santé qui suivent ce DU parce que il y a certains médecins qui réclament cette formation qui n'ont pas eu au cours de leur cursus. Oui.
Mathieu Calafiore, qu'est-ce que vous répondez-vous quand vous avez un monsieur comme Dust qui vient vous voir parce que j'imagine qu'il doit y en avoir un certain nombre. Donc qu'est-ce que vous lui dites, vous, en fait, et est-ce que un peu de connaissance de tous ces médicaments dont on parlait à l'instant, finalement, ça vous aiderait ?
Alors, c'est assez marrant. Moi, j'ai relevé pas mal de choses, effectivement, dans ce qui a été dit. Le fait que les médecins généralistes, moi, je suis généraliste aussi de formation, le fait que les médecins généralistes seraient tous des vendus à la solde de l'industrie pharmaceutique. Non, il faut vraiment se dire que, auparavant, peut-être il y a encore quelques décennies, on jugeait la qualité du médecin à la longueur de l'ordonnance. Plus l'ordonnance était longue et plus le médecin était réputé. Là, maintenant, c'est plutôt l'inverse. Il faut juger le médecin à la qualité de son ordonnance, mais plus elle est réduite, mieux c'est. En fait, ce qui se passe, c'est que on a tendance, en France et dans d'autres pays aussi, mais en France, c'est quand même assez particulier, à surtraiter tout. C'est-à-dire que tout doit à avoir une réponse par un médicament,
bien
qu'il
sûr.
Soit
je veux guérir,
chimique
docteur,
ou naturel. Et même, on voit aussi une grande discussion sur l'homéopathie, par exemple. Tout doit être répondu par un médicament. Alors qu'il faut parfois juste s'armer de patience. Il faut juste parfois, pour des symptômes bénins, bien entendu, vous parliez du rhume. Ouais. Le rhume va passer tout seul en une semaine si on prend des médicaments, et il va passer tout seul en 7 jours si on prend rien. Donc, il faut aussi parfois se donner un petit peu de recul et se donner un petit peu cette prise de distance par rapport à une réponse à tout le temps. Par contre, effectivement, dans certains cas où là il y a besoin d'un médicament, il y a certaines réponses qui peuvent être amenées par la phytothérapie, mais pas dans tous les cas et pas dans toutes les conditions.
Mais par exemple, vous, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit « moi, je préférerais quelque chose qui sera plus du domaine de la phytothérapie », est-ce que vous dites « mais pourquoi pas, en effet ?» et vous orientez vers quelqu'un qui sait ? Ou qu'est-ce que vous faites, en fait ?
Quand
il s'agit de quelque chose, effectivement, de pas dramatiquement grave.
Ma première question va être d'abord de se dire « est-ce qu'il faut vraiment quelque chose ou pas ?» La première question est vraiment toujours là, c'est est-ce que vous avez vraiment besoin de quelque chose ou la seule chose dont vous ayez besoin, le seul médicament dont vous ayez besoin, c'est du temps. Si la réponse est du temps, à ce moment-là, on ne donne rien, que ce soit de la phytothérapie ou quoi que ce soit d'autre. Par contre, si la réponse est, on peut donner quelque chose peut-être pour améliorer un peu les symptômes parce qu'on sait que ça marche, à ce moment-là, oui. Et dans ce cas-là, il ne faut pas donner n'importe quoi, pas donner par n'importe qui non plus. Donc dans ces cas-là, on peut se baser justement sur nos collègues pharmaciens qui ont cette expertise-là par rapport à d'autres professionnels de santé.
Bah tiens, justement, puisque j'ai Anne du Havre sous les yeux, je vais vous poser la question directement. Y a-t-il un risque de prendre beaucoup de thym en infusion pour éloigner les risques d'infection respiratoire ?
Oui.
Le risque, c'est quoi?
Le thym, donc, c'est une plante qui contient des tas de choses, mais entre autres du thymol, qui est une molécule qui peut surcharger le foie. Hein. Donc, mm-hmm. Je raccourcis un petit peu, mais ouais. Une détoxification hépatique peut être compliquée. Donc, à forte dose, bien entendu, oui. Alors, il faut effectivement respecter des doses convenables.
Mais alors, du coup, quand on est enrhumé, comme moi, et qu'on s'automédique, pas comme moi, quelle est la bonne dose, en fait?
Il y a des doses qui sont précises. Hein, donc c'est quoi? Les posologies traditionnelles des infusions à base de thym, elles sont connues, elles sont publiées dans les monographies de l'Agence européenne du médicament. On reste sur quelque chose de très traditionnel, donc qui est... relativement empirique. Donc, on n'a pas forcément des études cliniques qui ont montré que c'est cette dose qui était efficace, mais traditionnellement, on sait qu'à ces doses-là, on a une amélioration sans avoir de risque.
Bonsoir, Mireille.
Oui.
Allez-y, Mireille. Prenez votre téléphone, c'est moi qui vous écoute. Allez-y.
Oui. Non, je voulais simplement dire que ce qui m'énerve un peu, c'est quand j'entends dire « c'est naturel, donc ça ne fait pas de mal ». Et j'appelle à l'esprit critique, parce que Sigu, c'est Socrate qui en est mort.
Il le savait, il n'a pas été surpris. Hein.
Il n'a pas été surpris, non, mais enfin bon, ça, il y est quand même passé. Et donc ça lui a pas fait de bien. La digitale aussi, ça pourrait faire des sacrés soucis pour le cœur. Le bois gentil, c'est encore pire. Et tous les gens qui me disent mais on risque rien, c'est naturel. Moi, je les invite à prendre un bon ragoût d'amanite phalloïde. Ils verront si c'est naturel et si ça fait pas de mal. Donc il faut s'entourer d'avis médecins. Pharmacien. Je regrette qu'il n'y ait plus de formation en herboristerie. Ça, c'est bien dommage. Mais enfin, des gens qualifiés, voilà. Et l'esprit critique des gens.
Merci beaucoup, Mireille. Ouais. Alors, la question, Sabrina Boutefnouche, est sur les herboristes. On a l'impression que tout le monde a des cousins herboristes sur France Inter ce soir, parce qu'il y en a plein. Alors, faut quand même rappeler, ça a disparu en 1941. C'est vieux comme le monde, cette interdiction.
Ça a existé 150 ans en France. Hein. Donc, c'était une courte durée de vie, période de l'existence de ce diplôme d'herboriste. Il y a eu vraiment des changements réguliers donc, dans l'autorisation des plantes en accès libre ou non en France. Et effectivement, cette question autour d'un métier donc de spécialiste des plantes, elle revient souvent. Le pharmacien a dans son cursus de formation tous les enseignements nécessaires. Il est malheureusement pas identifié en tant que spécialiste des plantes, même s'il y a des pharmaciens qui ont développé cette spécialité et qui le font très très bien, donc je les salue au passage. Mais effectivement, il y a besoin d'identifier ce spécialiste-là des plantes. Je pense qu'il y a vraiment nécessité de formation dans ce domaine-là. Donc nous, à l'université Paris-Descartes, on souhaite tout à fait former dans le domaine de conseillers spécialisés autour des plantes médicinales, autour des produits à base de plantes en général et autour des produits d'herboristerie, puisqu'il y a un besoin sérieux de formation dans le domaine.
Mathieu Calafiore, est-ce que ça vous aiderait finalement si vous aviez des nouveaux confrères en fait, si on remettait au goût du jour ce qu'étaient autrefois les herboristes? Alors on peut faire ça différemment, on peut les appeler différemment, on peut faire quelque chose de probablement beaucoup plus scientifique et académique, mais pourquoi pas ou pas? Qu'est-ce que disent les médecins là-dessus?
On est très partagé en fait. Hein. L'idée, c'est de se dire encore une fois, qu'est-ce que va être la valeur ajoutée, si on peut parler comme ça, pour le patient? Si la valeur ajoutée est de dire on va le soigner plus naturellement, sous-entendu moins, avec moins de nocivité, pourquoi pas? Mais ce raccourci qui est fait de dire, et l'auditrice le disait parfaitement bien, le raccourci qui est de dire « ah ben c'est des plantes donc ça ne nous veut pas de mal », eh bien justement il ne faut absolument pas partir de ça. Donc avoir des confrères qui pourraient nous dire là dans ce cas-là on peut éventuellement substituer un médicament traditionnel par de la phytothérapie pour avoir le même résultat, pourquoi pas? Mais dire on va tout soigner avec la phytothérapie, c'est pas possible.
Une remarque, Sabrina Boutefnouche.
Oui, donc effectivement, il y a besoin donc d'assurer une formation pour justement limiter les risques liés à ces produits qui présentent pour certains des risques. Donc ça a été pointé par le rapport de l'Académie de pharmacie, notamment des plantes laxatives stimulantes. Il y a besoin de formation pour maîtriser ces risques, les prévenir et notamment les risques d'interaction avec les médicaments. Donc le besoin de formation, il est surtout lié à des raisons de santé publique pour pouvoir proposer des produits. Alors, non pas en remplacement d'un traitement, donc ça c'est très important à avoir à l'esprit. Ce qui se développe à travers l'Europe, à travers le monde entier, c'est du soin complémentaire. La médecine complémentaire, ça existe. Il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup d'établissements même où on va avoir recours à ces médecines complémentaires tout en maîtrisant justement le risque. Donc c'est vraiment pour améliorer la prise en charge des soins des patients.
Mais par exemple, moi, je suis tombée de ma chaise en préparant cette émission, j'ai lu qu'effectivement le pamplemousse pouvait annuler les vertus de certains médicaments. Mais quand on dit ça, est-ce que ça veut dire qu'en gros, si on en prend 12, c'est dangereux, ou si on en prend 1, c'est dangereux? Et j'ai même une subsidiaire là-dessus. Si on a pris un pamplemousse toute sa vie, pendant 20 ans, tous les matins, est-ce que ça veut dire qu'on a créé en soi quelque chose qui rend certains médicaments inopérants ou pas?
Alors le pamplemousse, il agit sur
C'est un exemple parce que je l'ai trouvé tellement quotidien, ce pamplemousse.
Oui, bah, enfin, il est bien connu hein, des soignants, ce pamplemousse, ce jus de pamplemousse. Il y a un risque d'interaction médicamenteuse. Là, c'est un aliment, donc c'est une interaction aliment. Médicaments, il y en a beaucoup, des interactions aliments-médicaments, il faut les connaître. Ouais. Et donc, cette exposition, effectivement, alors la quantité de jus, elle n'est pas vraiment maîtrisée. On sait qu'en fonction du terrain du patient, il va y avoir des effets au niveau du foie qui vont effectivement empêcher ou activer l'élimination de certains médicaments et donc les rendre donc plus dangereux concernant cette interaction.
Mais si on a mangé du pamplemousse pendant 20 ans avant de prendre certains médicaments par exemple, est-ce que le fait qu'on en ait absorbé pendant 20 ans rend le médicament plus difficile, même si on arrête au moment où on le prend ou pas?
C'est un effet qui va durer quelques heures et qui effectivement peut être chronique si la personne consomme régulièrement du pamplemousse.
Oui. Mathieu Calafiore, je vous entends trépigner dans mon oreille.
Tout à fait. En fait, il n'y a pas une espèce de résistance qui s'accumulerait et qui ferait que si on a bu du pamplemousse toute sa vie sans avoir besoin de prendre de médicaments, le jour où on a besoin d'en prendre, là ça ne marchera pas. Par contre, on a des interactions clairement définies avec certains médicaments, je pense par exemple aux statines, les médicaments qui font baisser le cholestérol, qui rentrent en compétition dans l'organisme avec certaines protéines. Si on prend du jus de pamplemousse, même un seul verre, ça peut suffire à rentrer en compétition. La compétition va se faire dans un sens ou dans l'autre, comme disait ma collègue avec vous sur le plateau. Ça peut être soit en diminuant l'efficacité du médicament, soit en augmentant l'efficacité du médicament. Donc ça, on ne peut pas savoir à l'avance. Mais clairement, il faut se dire que notre alimentation, d'une manière générale, interfère globalement avec ce qu'on va prendre comme thérapeutique, clairement.
Il y a cette question de Marie-Christine sur l'appli de France Inter. Je pense que la solution serait d'obliger les vendeurs de plantes médicinales à mettre une notice dans leur boîte comme c'est obligatoire pour les médicaments traditionnels. Mais rassurez-moi, Sabrina Boutefnouché, c'est pas obligatoire déjà? Il n'y a pas une notice? Il n'y a pas quelque chose dans les compléments alimentaires à base de plantes?
On rentre dans le cœur de cette réglementation du complément alimentaire qui est très complexe, qui prévoit pour certaines plantes des restrictions, qui prévoit des conditions d'étiquetage qui vont parfois mentionner un risque, mais la plupart du temps ne vont pas prendre en compte ce risque. Et effectivement, il y a là tout un travail qui se fait donc au niveau des agences sanitaires en France pour harmoniser les compléments alimentaires avec les médicaments en termes de restrictions.
Mais pour l'instant, il y a marqué quoi en fait? Il y a marqué quelque chose pour l'instant?
Oui, alors il y a des mentions réglementaires obligatoires, dépasser la dose journalière, la portion journalière, etc. Ne pas laisser à la portée des enfants. Donc c'est des mentions obligatoires. Parfois, pour certains produits, on va avoir des restrictions plus spécifiques, pour la femme enceinte notamment, pas tout le temps. Mais effectivement, pour beaucoup de plantes pour lesquelles on sait qu'il y a des restrictions à prévoir, des risques d'interaction médicamenteuse, sur le complément alimentaire, ça n'apparaîtra pas.
Et ben justement, tiens, Fabien, c'est de vous dont on parle en ce moment, puisque vous travaillez dans un laboratoire de compléments alimentaires. Soyez le bienvenu, Fabien.
Oui, bonjour tout le monde. Alors moi, je travaille pour un laboratoire de compléments alimentaires et en fait, ce que je voulais dire, c'était que, d'une part, nous, on fait beaucoup de formations parce qu'on rencontre les professionnels de santé qui sont des médecins et aussi des non-médecins. Mais c'est vrai que chez les médecins, ces professionnels de santé, ils sont surtout, en fait, les médecins homéopathes, certains spécialistes, comme certains gynécos, certains gastro, certains rhumatos. Et c'est vrai que quand on fait des soirées, par exemple, de formation, ce sont les médecins les moins nombreux. Donc, aujourd'hui, il y a un peu une rupture ou une cassure, en fait, sur On a plutôt des naturopathes, des ostéopathes, voilà, des gens qui vont soigner différemment que des médecins, en fait. Et c'est vrai que c'est un peu un regret, parce que nous, on aimerait vraiment communiquer. Et deuxième chose que je souhaitais dire, c'était que quand nous, on fait une information, on a toujours, par rapport à nos produits, un petit chapitre sécurité et précaution, où effectivement, on décrit très bien ce qu'il faut surtout pas faire avec certaines molécules. C'est vrai que le millepertuis, ben voilà, hein, on sait que il faut pas le conseiller avec des antidépresseurs, il faut pas le conseiller avec certains médicaments. Ça peut tout à fait inhiber certaines actions de certaines molécules, notamment des gens qui prennent des trithérapies, des choses comme ça. Donc voilà.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Fabien. Mathieu Calafiore, c'est pour vous. Il y a une cassure, nous explique Fabien, finalement, entre certaines pratiques et des médecins comme vous.
Alors clairement, il y a une chose qu'il faut dire peut-être à la base. Hein. Le premier auditeur parlait de l'industrie pharmaceutique, etc. Et donc avec une influence négative, néfaste de l'industrie pharmaceutique, ce qui est vrai. Il faut pas imaginer que l'industrie de la phytothérapie serait une industrie complètement philanthrope, qui n'aurait absolument pas envie de faire de profit en vendant ce qu'elle fabrique. Ce serait illusoire. Donc de la même manière, l'industrie qui va faire de la phytothérapie va vouloir vendre ses produits et donc faire des bénéfices. Donc il y a pas de philanthropie de ce côté-là. Par contre, imaginez que les médecins se forment au cours des soirées de formation, comme ça a été dit là. Ben, ça a été prouvé, ça marche pas. Ce qui marche, c'est de faire des formations, comme ma collègue parlait, de faire des diplômes interuniversitaires ou des diplômes d'université, par exemple. Les soirées de formation, ça marche pas. Les soirées de formation, c'est juste des soirées de représentants commerciaux qui essayent de vendre un peu mieux et de faire du placement de produits. Donc c'est un peu normal, et tant mieux finalement qu'on voit de moins en moins de médecins dans ces soirées-là. Ça veut dire, j'espère, je suis peut-être un tout petit peu utopique ou un tout petit peu naïf, mais j'espère que c'est parce que justement les médecins se détachent de plus en plus de l'industrie, qu'elle soit pharmaceutique ou phytothérapique.
Samy, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Le formateur, justement, c'est vous. Bonsoir, soyez le bienvenu.
Oui, formateur, mais surtout pharmacien d'officine, en fait, hein, qui pratique au quotidien le conseil de phytothérapie aux patients. Et je souhaitais réagir juste sur le fait que l'Académie de pharmacie pointe et s'inquiète de la consommation excessive de compléments alimentaires naturels et des risques qui sont engendrés par cette consommation. Je ne prêche pas pour ma paroisse, du coup, parce que je trouve que c'est un peu l'arroseur arrosé, vu que pendant quand même pas mal d'années, dans les cabinets de médecine générale et dans les pharmacie d'officine, il y a eu beaucoup le discours comme quoi auprès des patients les plantes finalement n'étaient pas très efficaces et qu'il fallait leur préférer de manière systématique de l'allopathie de chimie de synthèse. Et je pense qu'aujourd'hui on peut un peu remettre en question la rationalité de cet adage, et du coup on a créé une confusion quand même en faisant passer ce message. Aujourd'hui ça bouge beaucoup avec les nouvelles générations qui reconnaissent qui reconnaissent plus l'activité des plantes. Et voilà, donc pointer la toxicité de ces produits, c'est aussi leur reconnaître une activité pharmacologique certaine. Donc la question se pose de réviser un peu notre façon peut-être à tous de prescrire, de délivrer, et aussi de flécher les remboursements sécurité sociale, et aussi peut-être d'ouvrir à des professions comme, je cite, les paysans herboristes, qui ont des compétences différentes des nôtres, mais des compétences à apporter sur le conseil des plantes. Et je termine là-dessus. On peut se poser la question, et je serais curieux d'avoir l'avis de vos intervenants, sur la raison pour laquelle on peut trouver, notamment, vous pointez le millepertuis, de l'extrait de millepertuis standardisé, très concentré, en vente libre, sur des sites internet de pharmacie d'officine, donc sans conseil associé, puisque c'est un achat en ligne, et qu'un producteur de plantes, lui, n'a pas le droit de vendre une tisane de fleurs de bleuet. Aujourd'hui, voilà, en France, en 2019, voilà, je pense que ça vaut le coup d'ouvrir un peu aussi de ce côté-là.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Samy. Sabrina Boutef-Nouchet, il y a ce genre d'incohérence. Effectivement, on peut acheter des choses qui sont finalement nocives facilement sur Internet, mais pas dans une... Je sais pas comment on appelle ça. Effectivement, c'est pas une officine, puisqu'un herboriste n'existe pas. Mais
Alors, l'accès...
Vous parlez du paysan herboriste.
Voilà, en fait, on est là dans le cœur de la question autour de l'herboristerie, et savoir est-ce qu'on peut vendre des plantes, quelles plantes peuvent être vendues, et est-ce qu'on peut les vendre en donnant des allégations santé autour de ces plantes.
Et quelle est la réponse?
C'est une question qui est en cours d'examen au Sénat. Donc, il y a toute une mission autour de la place des plantes médicinales et des métiers autour de l'herboristerie, et des aménagements réglementaires réglementaire qui serait à prévoir dans ce cadre-là, à savoir est-ce qu'on permet, est-ce qu'on élargit la liste des plantes autorisées en vente libre donc pour les herboristes? Est-ce qu'on autorise des allégations, entre guillemets, qui correspondraient à des indications traditionnelles, qui correspondent à ce qui existe actuellement pour le médicament traditionnel? Et ça, c'est... Donc, il y a des groupes de travail au Sénat qui travaillent sur ces questions-là pour effectivement régler ces situations-là.
Mais jusqu'où va l'autorisation aujourd'hui? C'est-à-dire que... Alors, on va le faire aussi basique que ça, si moi je m'y connais vraiment beaucoup en plantes, je suis paysan herboriste, on va dire ça, est-ce que j'ai le droit de vendre quelque chose ou non? Je n'ai le droit de l'utiliser que pour ma consommation personnelle, au fond, en fait.
Alors, il y a un droit de vente, il y a actuellement 148 plantes officiellement. D'accord. En France, mais ça s'élargit aux plantes de la liste des compléments alimentaires, puisque ces compléments alimentaires peuvent être proposés en tant que plantes vrac, sous forme de dose.
Okay.
Et donc, on arrive là à vraiment beaucoup, beaucoup de plantes qui peuvent être vendues et qui sont en vente libre. Donc, il y a eu une dérégulation très importante dans le domaine, sans assurer ni la formation, ni la sécurité d'emploi des produits.
Donc, on est un peu au milieu du guet, en fait. Mathieu Calafiore.
Oui, on est vraiment dans une espèce de
zone frontière, land, un peu,
comme ça,
ouais.
No man's land, effectivement. Il faut faire attention parce que le fait de pouvoir autoriser justement la revente de plantes comme ça, en donnant justement une espèce d'indication thérapeutique, on pourrait se heurter à une espèce d'exercice illégal de la médecine, finalement. Donc, il faudrait faire attention parce que on n'est pas à l'abri de gens qui voudraient en faire un commerce, encore une fois. Enfin, voilà, l'être humain nous a montré suffisamment au cours de l'histoire que on ne peut pas lui prêter toutes les bonnes intentions tout le temps. Mmh. Donc, il faudrait faire très attention à ça. L'objectif, ce serait peut-être de faire... comme n'importe quel autre médicament, finalement, des études qu'on appelle en double aveugle, c'est-à-dire qu'on teste chez des patients qui ont un symptôme particulier ou une maladie particulière qu'on veut soigner, on leur donne, sans savoir ce qu'on donne, soit un placebo, soit la phytothérapie, et on voit, au final, qu'est-ce qui marche. Si ça marche, eh bien, à ce moment-là, on lui donne le statut de médicament vraiment officiel, avec le remboursement qui va avec. Si ça marche pas mieux que le placebo... Ben, ça n'a pas besoin d'être un médicament et donc à ce moment-là, on ne le rembourse pas et on ne le prend pas en charge.
Alors juste pour rebondir un petit peu là-dessus, ça existe déjà. C'est-à-dire que, alors sans le remboursement, hein, mais il y a effectivement une liste de plantes qui sont reconnues pour leur usage thérapeutique, ont fait l'objet d'études cliniques et qui sont reconnues dans le cadre d'un usage bien établi. C'est-à-dire qu'on a reconnu sur la base d'études cliniques bien menées une efficacité versus placebo, voire versus traitement de référence. Pour l'arpagophytum, par exemple, il y a eu des traitements versus anti-inflammatoires qui ont montré l'intérêt de l'arpagophytum.
Bon, pour faire quoi d'ailleurs? Pour soigner ou pour prévenir quoi? D'ailleurs, soigner ou prévenir?
Alors, diminuer les douleurs articulaires. Donc là, c'est du traitement symptomatique. Hein, on est sur de l'anti-inflammatoire. Donc chez des patients qui souffrent de douleurs articulaires chroniques, comme les patients arthrosiques, par exemple.
J'ai une question subsidiaire parce que cette plante dont vous parlez, par exemple, alors si je la trouve dans la nature, si quelqu'un de confiance ici, chez moi, l'un des paysans arboristes me la fournit, formidable. Sinon, est-ce qu'on sait d'où viennent ces plantes-là? Enfin, on parlait du millepertuis qu'on peut avoir par internet, par exemple. Qui nous dit que cette plante n'a pas été récoltée quelque part au fin fond de la Chine et qu'en fait c'est très mauvais tout ça et que ça va me rendre plus malade encore? Est-ce qu'il y a une traçabilité possible ou pas?
Difficilement avec les compléments alimentaires. Alors normalement, ça doit être la traçabilité doit être assurée par le fabricant qui doit donc fournir une annexe 2. Donc c'est un document qui doit avoir donné aux autorités en cas de demande pour effectivement retrouver cette traçabilité là. Sur internet, cette traçabilité n'existe pas.
Et même dans certains magasins, par exemple, ouais, des gros pots avec des gélules qui sont censées être formidables parce qu'elles sont à base de je ne sais quelle plante, etc. Est-ce qu'on sait d'où ça vient tout ça en fait?
Alors on devrait pouvoir le savoir, donc il n'y a pas d'exigence officielle donc de traçabilité sur les boîtes. Donc ça, on ne peut pas le savoir. En termes d'étiquetage, il n'y a pas vraiment d'exigence de traçabilité. Sur le fait que ça présente un risque, pour l'arpagophytum par exemple, on sait très bien que c'est une espèce protégée, menacée d'extinction. Et donc, il y a effectivement une pression écologique sur cette plante qui est importante.
Donc, il y a du trafic aussi.
Donc, il y a effectivement beaucoup de trafic dans le domaine. Il y a des falsifications nombreuses. Et alors, dans des circuits corrects, qui ont pignon sur rue, qui sont facilement identifiables, en général, les fabricants donc quand même suivre la réglementation française et donc assurent cette qualité. Par contre, pour tout ce qui sera sur Internet non traçable avec simplement un endroit pour mettre son numéro de carte bleue, ça, il faut effectivement bien se méfier parce que là, il n'y a aucune traçabilité et un risque important de falsification.
Voire éviter d'ailleurs. Bonsoir Pierre-Alain.
Oui, bonsoir.
Bienvenue Pierre-Alain, on vous écoute.
Oui, merci. Fabienne, je vous écoute très souvent et je vous félicite pour vos qualités humaines et aussi celles de vos émissions.
Formidable.
Ceci dit, une toute petite remarque, s'il vous plaît. Aujourd'hui, vous avez présenté les choses de façon assez partielle et comme si tout ce qui était naturel, il fallait s'en méfier, c'était remis en cause. Un petit peu comme si vous aviez un a priori. Ce qu'on attend des journalistes, c'est qu'ils soient vraiment impartials, qu'ils nous proposent une thèse et son antithèse. Hein,
un, interprétation, et deux, après, l'avantage du téléphone sonne, si je ne m'abuse, c'est que vous avez la possibilité de parler, de nous dire ce que vous en pensez, donc on vous écoute, Spirala.
Oui, voilà, mon expérience à moi, c'est que j'ai eu une formation, j'ai suivi une formation pendant plusieurs, sur 3 ans, environ pendant 6 mois, chaque week-end, et je me suis formé en aromathérapie, homéopathie, phytothérapie. Ça fait maintenant longtemps que je ne me soigne plus au travers des directives de mon médecin. Je le fais tout seul. Et même mes 3 enfants, qui ont souvent qui ont été malades aussi, je les ai soignés tout seul. Voilà. Ma dernière fille, par exemple, n'a jamais pris d'antibiotiques. Quand elle a une petite fièvre qui monte à 30, 39, 39,5, c'est en fait une réaction normale du corps. Et j'accompagne ça avec de l'homéopathie et aussi des huiles essentielles. Voilà. Par voie orale et aussi par voie cutanée. On massage. Et donc, j'ai 55 ans, je me complémente. J'écoute plus le médecin et je vais très bien. Arpagophytum, j'en ai pris. Maintenant, j'ai remplacé cette plante par le curcuma associé au poivre, qui fonctionne très très bien. Et franchement, je me lance. Je suis en train de développer une activité agricole à 55 ans. Donc, c'est physiquement très dur. Eh bien, si je n'avais pas ce support d'aromathérapie et homéopathie, eh bien, je ne tiendrais pas le coup, tout simplement.
Mais Pierre-Alain, pardon, j'ai envie de vous poser la même question que notre premier auditeur tout à l'heure, parce que j'entends ce que vous dites, et y compris pour ce qu'on va appeler les petits maux, c'est ce que disait d'ailleurs notre médecin Mathieu Calafiore également, un rhume, c'est 7 jours avec ou sans médicaments, ou quoi qu'il en soit. Vous considérez que c'est jusqu'à quel moment, en fait, votre méthode pour vous soigner vous suffira? C'est-à-dire à quel moment vous vous dites, là, peut-être qu'il faudra que je demande un avis de médecin?
En fait, clairement, même une grippe, je suis très peu au sujet maintenant, depuis que je ne suis plus un patient, je suis actif, eh bien, je suis quasiment plus malade, en fait. Et si vous voulez, le stade où vraiment je pense complètement démuni, c'est si jamais un jour on diagnostique des cellules cancéreuses, où là effectivement j'ai pas de réponse à mettre en face. Ceci dit, j'ai été malade quand j'étais salarié, en même temps que d'autres collègues, eh bien, en me soignant moi-même, j'ai été rétabli quasiment 3-4 jours après, alors qu'eux sont restés 10 jours en arrêt maladie.
Merci pour votre témoignage, Pierre-Alain, et pour votre expérience. Sabrina Boutefnouché qui voulait réagir, et j'imagine que Mathieu Calafiore aussi. Allez-y.
Bah écoutez, tant mieux que ça ait marché. Moi, je trouve que l'automédication sur des petits maux, c'est très très bien. Vous avez suivi des formations, donc en aromathérapie, phytothérapie, etc. Ces formations fleurissent. Vous avez visiblement eu des formateurs corrects. Moi, je trouve que c'est assez dangereux d'aller vers la médication chez son enfant avec des huiles essentielles. C'est quand même difficile d'utilisation, ça présente un risque important. Effectivement, sur des tableaux d'infection virale, on sait très bien qu'en général, par exemple, une rhinopharyngite, vous allez simplement faire des lavages de nez, etc. Donc, l'utilisation des huiles essentielles peut apporter un plus, mais là, je pense qu'il faut absolument avoir les conseils d'un professionnel de santé sur l'utilisation de ces produits. Vous avez, je pense, visiblement eu suffisamment de formation, mais je pense qu'il ne faut pas non plus diffuser ce type de message parce qu'il y a un risque important avec les huiles essentielles chez les enfants, un risque de convulsion. Si c'est mal utilisé, on a des cas. J'invite quand même la modération.
Mathieu Calafiore, pardon, moi ce que je trouve intéressant dans ce que nous raconte notre auditeur, c'est ce que je disais en introduction d'ailleurs, tout ça nous parle aussi de défiance, tout ça nous parle aussi de ce moment, cette période, on va pas revenir sur les vaccins parce que sinon on en aurait pour toute une autre émission à refaire, mais ça participe au fond de la même chose en fait. C'est ça que ça dit je n'ai plus confiance aujourd'hui. Comment vous répondez à ça? Parce que, encore une fois, c'est pas grave de soigner un rhume avec des plantes, évidemment ça marche aussi bien, vous l'avez dit et vous avez raison, mais comment on répond à la défiance qui dit moi je ne vais plus du tout chez le médecin en fait.
Le problème vient du fait que on a eu trop souvent, et là je vais balayer devant ma porte de médecin généraliste, on a eu trop souvent tendance dans les décennies qui ont précédé à encore une fois beaucoup prescrire, trop souvent pour tout et n'importe quoi. Donc ça peut être installé ce climat de défiance-là. Il faut maintenant revenir, et dans les facultés de médecine de France, on forme les futurs médecins généralistes comme ça, il faut revenir à beaucoup plus de pragmatisme en disant, est-ce que ce médicament-là, mon patient, s'il le prend, est-ce qu'il va vivre plus vieux, par exemple, si c'est un médicament pour limiter un risque cardiovasculaire, par exemple, ou est-ce que ce médicament-là, si mon patient le prend, est-ce que vraiment il va en tirer un bénéfice? Si la réponse est oui, on le prescrit. Si la réponse est non, ou alors je sais pas, on le prescrit pas. L'homéopathie, par exemple, je peux en parler très facilement, je suis poursuivi par le syndicat des homéopathes pour avoir dit qu'il n'y a pas plus d'efficacité que le placebo. Donc clairement, on en est là.
On a eu ce débat au téléphone.
Oui, tout à fait. Donc on en est là juste parce que ce sont des choses qui n'ont pas besoin d'être prescrites pour guérir. On ne va pas aller mieux en prenant ça. L'auditeur qui disait « je me guéris tout seul, je me soigne tout seul, je soigne mes enfants, etc. » et il disait aussi « ma fille n'a jamais eu d'antibiotiques ». C'est parce que il faut qu'il remercie son patrimoine génétique, il a un système immunitaire qui est de compétition, et tant mieux. Et donc ça veut dire que dans ces cas-là, heureusement qu'il n'a pas eu d'antibiotiques, puisqu'il n'en avait pas besoin. Donc quand il n'en a pas besoin, il ne faut pas en donner. Il faut peut-être justement qu'on arrive un petit peu plus de raisonnement scientifique dans la prise en charge de nos patients, et de se dire, quand il y a besoin d'un traitement, là oui on le donne, mais quand il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Vous pouvez très bien ressortir de chez votre généraliste, sans ordonnance. C'est une chose qu'on n'imaginait pas il y a quelques années encore, mais on peut très bien se dire, ici, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Vous avez été examiné, le médecin vous dit, il n'y a besoin de rien, juste du temps. Et on ressort sans rien.
Il y aura une réponse rapide à une question rapide, c'est la vôtre Brigitte, bonsoir.
Oui, bonsoir. Je vous appelle concernant la revue Prescrire, qui pour la 7e année consécutive a publié dans son numéro de février sa liste des médicaments plus dangereux qu'utiles qui sont à écarter des soins. Et cette liste recense 93 médicaments dont la balance bénéfice-risque est défavorable dans toutes les situations cliniques pour lesquelles ils sont autorisés. Alors moi je voudrais savoir, parce que cette liste est publiée notamment sur le site du Figaro.fr, moi je voudrais savoir, on y trouve des médicaments qui sont très couramment prescrits, le décontractile, le toplexil, le primalan, le voltarène. On m'a prescrit il y a deux jours de l'ambroxol, qui est un antitussif, et que l'on trouve sur cette liste des médicaments à éviter soigneusement. Donc moi je voudrais savoir, pour les médecins ou les pharmaciens...
Ce qu'il faut en penser, Brigitte, j'entends votre question, pardon de vous presser parce que l'heure tourne. Sabrina Boutef-Nouchet d'abord, est-ce qu'il faut la lire, cette liste, comme argent comptant, si je puis dire, pour des patients comme Brigitte, des gens comme Brigitte qui...
Alors, il y a dans cette liste certains médicaments qui ont montré des effets secondaires graves, donc comme le Primalan, par exemple. On sait que ça augmente l'espace cuté, donc au niveau du cœur, ça peut entraîner des problèmes cardiaques. Donc, effectivement, c'est cette balance.
Mais vous la regardez avec intérêt ou avec suspicion, ou en vous disant ouais, c'est intéressant, y compris pour nous, pharmaciens.
Oui, c'est intéressant de la regarder. Oui, il y a des choses qui sont justifiées dans cette liste. Oui.
Vous avez entendu, ça veut dire qu'on est en retard.